10h sur 48 FM, c'est l'erreur est urbaine, on est samedi. On retrouve avec nous aujourd'hui pour notre petite émission autour de l'urbanisme, de l'architecture et plus largement de la ville, que ce soit à Liège ou autre part dans le monde. Justement, pendant le coronavirus, on essaye de s'exporter, notamment pas mal en France, on y revient tout à l'heure. Mais en tout cas, petit rappel, l'erreur est urbaine, c'est notre émission qui est sponsorisée, qui est en partenariat avec Urbagora, l'association qui défend justement les réflexions autour de la mobilité et d'un urbanisme raisonné. On reviendra de toute manière sur l'association qui est pas mal active en ce moment sur certains débats qui agitent le déconfinement. On en reparlera en troisième partie d'émission. Déjà, je vais présenter mes invités du jour. On a notamment, j'ai dit qu'on s'internationalisait. Enfin, on parle surtout de la France pour le coup. nos amis français sont avec nous depuis Paris. Nous avons Juliette et Jean-Philippe qui sont avec nous. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour, donc vous faites partie de la maison des lanceurs d'alerte, donc on ne va pas y revenir pour le moment, mais on vous laissera largement la parole, vous êtes nos grands invités du jour, mais on va notamment parler, la thématique du jour, c'est autour justement de peut-être un autoritarisme ou une répression à l'heure du confinement. Comment peut-être les États, que ce soit en Belgique, en France, plus largement en Europe et dans le monde, profitent. Enfin, on peut presque dire profite, ouais, effectivement, de cette période si particulière pour mettre en place une certaine surveillance qui est justement parfois justifiée par une idée de sécurité, notamment actuellement sanitaire. Et avec nous de retour, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais lui, il est en direct de Liège. J'ai nommé notre cher ami italien, Luca Pidiu est avec nous. C'est notre génie d'Urbagora qui est là. Bonjour, Luca.
Quelle présentation très, très, qui fait plaisir en tout cas. Bonjour à tout le monde. Je pense que ça fait pas si longtemps que je n'étais pas venu. Hein. Ça fait juste une émission que je n'étais pas là. Mais
ça, on a l'impression que ça fait belle lurette. C'est que aussi là, du coup, depuis le confinement, on n'est pas passé à un mois, mais à une hebdomadaire. Donc c'est vrai que on avait l'impression de ne pas t'avoir entendu depuis un petit moment. Mais en tout cas, on est ravis de te revoir. Et puis vraiment, que ce soit Juliette et Jean-Philippe ou également Lucas, je vous remercie d'être là parce que pour le coup, vous m'avez bien aidé à préparer cette émission que j'ai très peu préparée de mon côté. Voilà, ça c'est dit en tout cas. première partie, on va parler...
Il ne faut pas le dire.
On le dit, on n'est pas censuré sur 48 FM, c'est pas grave. justement, moi je revenais, j'avais invité nos premiers auditeurs la semaine dernière. Je les avais invités, je me suis dit que peut-être certains n'avaient pas encore repris le chemin du travail pour justement regarder deux documentaires d'Arte qui étaient super intéressants. Le premier, qui est plutôt court, qui est un ensemble d'interviews de spécialistes sur le sujet, qui se nomme « Il y a une réelle possibilité d'abus de pouvoir des gouvernements ». Je crois que tout est dit dans le titre. Et le second, un documentaire d'à peu près 1h30, 2h, « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». Sur ces deux documentaires, on est vraiment orienté sur la télésurveillance et sur le développement d'un ensemble d'applications numériques qui sont mises en place pour surveiller sous un joug justement de sécurité, comme j'en parlais en introduction, pour essayer de justement surveiller cette population, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Oui, la question se pose avec le début du confinement. Faut-il, pour être efficace et endiguer la propagation du virus, ou du moins la maintenir à un niveau relativement faible, ça dépend des pays, mais bon, on va dire que ça a quand même relativement réduit, est-ce qu'il faut faire appel aux nouvelles technologies? C'est ce que critique et pointe du doigt, notamment ces deux documentaires, le risque d'abus de pouvoir, de surautorité de l'État et d'atteinte à la vie privée de la population sous le dogme de la protection et de la sécurité. Ces deux mots reviennent assez souvent, notamment par les différents experts qui sont interviewés pendant ces deux documentaires. La limite est déjà, en tout cas pour eux, outrageusement dépassée. Que ce soit par des pays, on va dire, autoritaires. On a longuement, depuis un certain temps, entendu parler des technologies qui sont utilisées en Chine, mais également des pays dits démocratiques. On ne me voit pas sur mon écran, mais je mets des guillemets, des gros guillemets. Du moins, la France, la Startup Nation par excellence, est une très bonne élève du développement de la télésurveillance technologique privée. Donc, il laisse des boîtes privées vendre notamment à l'international dans des pays hautement démocratiques comme l'Égypte. Si vous n'avez pas compris, c'est de l'ironie. Nice notamment, Smart City internationalement reconnue, en pole position, en tout cas au niveau mondial, est à la tête justement de la surveillance numérique. Surtout, le risque, selon les intervenants du documentaire, c'est qu'avec cette période de confinement et maintenant de déconfinement, c'est de créer une habitude de cette surveillance accrue et ultra sécuritaire. Le consentement de la population qui accepte cette surveillance en état d'urgence, un état d'urgence ici sanitaire, mais qui finalement se banalise au-delà de cette période d'état d'urgence. Voilà, c'était un petit développement sur ces deux documentaires d'Arte. Je vous laisse les voir, je vous invite vraiment à les voir. Ce sera beaucoup plus développé et beaucoup plus riche que ce que j'ai pu présenter. C'est peut-être juste une mise en bouche. Je laisse peut-être compléter, Lucas, je crois que tu avais également fait peut-être des recherches sur cette partie-là de télésurveillance et de développement numérique comme moyen de surveillance, justement.
Ben, je vais peut-être un peu parler pour ma part du cas belge. Faut distinguer peut-être, je dirais, deux choses dans la question des surveillances et du traçage des données. Pour le moment, en Belgique, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là depuis le début du confinement, mais en fait, c'est des modèles qui fonctionnent pour le traçage de maladies déjà avant ça, mais sur des cas comme, je pense, Ebola, etc. Et donc en Belgique, ce qui a été mis en place, c'est ce qu'ils appellent une task force. Donc c'est un espèce de groupe de supervision, de recherche et de pilotage qui a pour but en fait de fournir au gouvernement des analyses des données en fait à partir de données mobiles. C'est je crois que la task force s'appelle un truc genre Data Against Corona, un truc comme ça. Ça a été mis en place. Ouais, bah écoute, forcément, il faut que ce soit en anglais. Ça, c'est logique. Donc, ça a été mis en place il y a un mois. C'est un groupe qui regroupe des opérateurs de téléphonie mobile, donc qui ont accès aux données de localisation des utilisateurs, des scientifiques du service public fédéral santé et des spécialistes de tout ce qui est numérique et data. Donc c'est task force, en fait elle analyse, elle permet d'analyser l'utilisation des données de géolocalisation, comme je dis, qui plus ou moins actuellement servent à, dans un premier temps, évaluer l'impact du confinement et le respect des mesures de confinement, en gros. Donc comme je disais, c'est une technologie qui a déjà été développée en Belgique, là pour le coup c'est une technologie belge qui utilise visiblement, en partie en tout cas, pour ce qui est du niveau algorithmique, pour surveiller l'épidémie d'Ebola et de malaria en Afrique de l'Ouest. En fait, l'idée, c'est de pouvoir mesurer les mouvements de la population à grande échelle. Et quand je disais que c'est un modèle différent que d'autres types de tracing qui sont peut-être, et j'y reviendrai après, qui sont peut-être utilisés dans d'autres parties du monde, c'est qu'ici, c'est, on va dire, du big data comme on en fait depuis des années, c'est-à-dire qu'on ne trace pas une personne et un téléphone unique, on regarde le passage des téléphones par des bornes dans différentes communes, et c'est des données qui sont agrégées, en fait, et ça marche par groupe de minimum 30 téléphones, je pense que c'est un chiffre comme ça, ouais, 30 téléphones, et les données sont anonymisées, donc on ne sait pas forcément qui il y a derrière. L'idée, c'est d'avoir des modèles qui permettent d'avoir des tendances et de dessiner des flux et des grands comportements, quoi. Ces données, elles sont aussi croisées avec d'autres types de données, je pense, d'autres types de recherches. Et je pense que pour le coup, il y a un certain respect de la législation européenne sur la protection des données quand elles sont accumulées. Alors, C'est aussi des données qui sont utilisées pour, comme dans tous les modèles en fait, d'algorithmes, qui sont réinjectées dans les boucles et donc qui permettent d'améliorer la qualité des algorithmes. C'est des boucles de rétroaction, c'est en fait la base de ce qu'on appelle la cybernétique en fait, hein. Donc, c'est-à-dire on prend un résultat puis on le réinjecte dans le calcul pour avoir des modélisations mathématiques. Et donc voilà, ils ont su faire toute une série de calculs avec ça qui montraient si le confinement ou non a été respecté. Donc ça, c'est déjà potentiellement interpellant dans une certaine mesure, mais ça marche sur un modèle qui est déjà largement utilisé dans les applications mobiles, quoi. Le fait de modéliser des flux, d'essayer de repérer des tendances. Alors, évidemment, quand on entend les spécialistes en parler dans les médias, bon, eux vendent aussi leur. Je ne devrais peut-être pas dire vendre, mais essayent de justifier leur système en disant évidemment qu'il y a des comités éthiques qui sont mis au-dessus de ça et qui sont amenés à peut-être. En tout cas, chapeauter cette task force, mais ce que j'aimerais bien en fait savoir, quand on en parle dans les médias, c'est et je serais ce qui serait intéressant de savoir à chaque fois qu'il y a des comités éthiques comme ça, c'est de savoir de quelle façon en fait ces comités fonctionnent. Est-ce que le comité éthique approuve ou refuse simplement ce sur quoi il est amené à se prononcer? Est-ce qu'il est possible d'apporter des modifications à certains protocoles? Comment est-ce qu'ils définissent ce qui est éthique ou non? De qui se compose le jury? En fait, il y a une série de questions, je trouve, qui ne sont pas du tout assez posées. Et pour faire un parallèle un peu, je dirais peut-être un pas de côté et un parallèle peut-être qui sera un peu osé, c'est. Chez Urban Agora, parfois on voit que certains projets urbanistiques passent par toute une série d'experts et que on les fait revenir parfois par toute on va dire une forme de validation qui s'apparente à de la participation citoyenne sans qu'on ait forcément. Qui est de protocole sur, on va dire, sur quoi exactement peuvent se prononcer les citoyens ou les personnes qui sont amenées à se prononcer sur des sujets qui sont extrêmement techniques. Ils peuvent pas forcément, ils peuvent des fois simplement, comme dans le cas de certains permis d'urbanisme, on peut simplement accepter ou refuser ce qui est précisé et pas forcément y apporter des grandes modifications. Et donc là, je dirais qu'il y a une espèce de parallèle avec ça, si on veut, puisque dans le cadre de ce panel d'experts et de la façon dont leur travail est supervisé, on ne sait pas du tout en quoi il est supervisé finalement. Qu'est-ce qui est possible de modifier, comment est-ce qu'on définit ce qui est éthique ou non, à quel niveau c'est défini, il y a une espèce d'opacité finalement. Alors, on peut comprendre que toutes les théories du complot les plus folles se mettent là-dessus parce que forcément, il y a une grosse opacité du procédé, quoi. Bon, je vais pas, je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, je disais que c'était différent parce que en fait, on n'est pas là pour le coup, on n'est pas sur un système, pas encore en tout cas, sur un système de tracking personnalisé, mais ça pourrait voir le jour en Belgique aussi. Avec des applications qu'on pourrait mettre sur nos téléphones, mais là qui seraient sur base volontaire. Alors là, c'est effectivement beaucoup plus grave en termes de surveillance. C'est déjà ce qu'on peut trouver dans certains pays comme la Corée du Sud, l'Allemagne, la Chine. Enfin, l'Allemagne, c'est quand même assez interpellant. La Chine ou Singapour. C'est des applications qui marchent par Bluetooth. Et là, donc, c'est vraiment un tracing numérique. Essentiellement, l'idée, c'est d'enregistrer les contacts dans une population puisque quand un individu est infecté, on puisse retracer les personnes avec lesquelles il a été en contact durant la période d'incubation et puis tester et isoler ces individus potentiellement contaminés afin de limiter la propagation du virus. Mais on remarque que ça n'a pas beaucoup de sens sans testing, sans faire du test à grande échelle, déjà d'une chose. Puis il y a toute une série de choses qui montrent que ces applications de tracking ne fonctionnent pas forcément toujours très bien. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez des... je vais peut-être m'arrêter pour voir si vous avez déjà des remarques ou si vous voulez échanger sur le sujet.
Bah, déjà, merci en tout cas pour ces éclairages, du moins du côté belge et de ce qui est en train de se mettre en place. On voit que c'est relativement flou, du moins. On a la sensation que, ouais, ce que tu dis, c'était relativement opaque et le gouvernement, a priori, ne s'est pas encore prononcé particulièrement. En France également, on a commencé à entendre, je pense qu'on va en reparler notamment avec Juliette et Jean-Philippe, de cette application Stop Covid, on en reparle dans la deuxième partie de l'émission, mais c'est vrai que voilà, il y a une réflexion qui n'avait jamais été invitée effectivement avant. Alors je reviens à ce documentaire magnifique d'Arte, mais effectivement de se dire, on avait l'impression que c'était des technologies qui étaient, on va dire, réservées à des pays, à des gouvernements et des politiques très, très autoritaires, et que là, que ça se décale, que ça glisse vers nos pays où il y a quand même une, je dirais pas une résistance, mais il y a quand même une opinion publique sur ces questions-là qui s'interroge et qui généralement conteste. C'est quand même assez interpellant, effectivement. Je pense qu'on pourra en reparler également avec nos invités. J'enchaîne, je me permets, en tant qu'animateur de cette émission, je me permets de glisser sur la deuxième partie de ma petite chronique, justement, sur... on parle justement de surveillance et on parle d'autoritarisme. Et moi, je voulais justement parler d'autoritarisme, faire un exemple qui est assez intéressant et assez interpellant. À nouveau du côté français, je m'excuse, peut-être qu'on est encore protégé un petit peu en Belgique, mais à une glissade d'autoritarisme, notamment face aux contestations d'aménagement. On a notamment ce qu'on dit en Belgique, on a des aménagements qui sont faits en stoum, et il y a des gens qui se rebellent contre ces aménagements qui sont faits un peu derrière le dos, même s'il y en a de plus en plus, effectivement, on a pu relever quelques travaux qui se font... un peu en dehors des limites de la loi pendant cette période si particulière. Et à l'inverse, il y avait des gens qui résistaient du côté de Bretignolles-sur-Mer en Vendée, la ZAD de la Dune qui s'est fait expulser le 8 avril dernier. Et non, l'État n'attend pas le consentement des militants pour les expulser. Suite à une altercation, le matin même du 8 avril, entre des habitants de Bretignolles et des zadistes, les policiers ont voulu intervenir, une sorte d'opération militaire qui n'a pris en compte aucun respect des règles de sécurité sanitaire liées au confinement. Pas de prévention, pas d'information. Une obligation pour les zadistes de se retirer du terrain où ils étaient confinés, pour finalement les laisser à la rue, sans solution d'hébergement d'urgence dans le cadre du confinement. Et ça ne s'arrête pas là, car le soir même, donc ce soir du 8 avril 2020, donc ce n'est pas cette fois-ci les policiers, mais une septantaine de personnes proches du maire et soutenant le projet de port de plaisance contre lequel les zadistes s'opposaient, ont décidé simplement de brûler l'ensemble des constructions et des habitations de la ZAD. Des vrais cow-boys, donc, en Vendée. La préfecture, qui en rajoute une couche, juste le lendemain, pour essayer de défendre cette intervention, donc une réunion de 70 personnes en temps de confinement pour brûler et saccager des constructions, certes sur un terrain où ça n'était pas autorisé, mais est-ce vraiment de leur pouvoir à ces citoyens? Donc la préfecture justifie ce déplacement et cette réunion en temps de confinement comme une mission bénévole d'intérêt général. C'est-à-dire que cette expulsion était d'intérêt général dans le cadre de l'aménagement du port de plaisance. Vous avez bien entendu, c'était important de brûler l'ensemble des habitations en bois parce que c'était du bénévolat d'intérêt général. Surtout en confinement, on ne pouvait pas attendre pour pouvoir faire cet aménagement. Donc on parle de violences qui sont faites par des citoyens et par le moment aussi par les policiers. Ces violences policières, elles ne vont pas uniquement à l'encontre de militants, mais aussi de citoyens. Et ça met, en tout cas, j'ai la sensation que ça met en exergue. On avait parlé il y a 2 semaines, justement, de la lutte des, en banlieue face au confinement, une sorte d'inégalité qui était exacerbée. Bah, je pense que c'est également le cas sur les contrôles de police. C'était forcément une sensation déjà existante, mais d'autant plus marquante, entre un Adil renversé par une voiture de police à Anderlecht, roulant à contresens le 10 avril dernier, ou d'autres images de contrôles musclés de part et d'autre de la frontière qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, une cinquantaine de personnes dansant sur une place du 18e gentrifié à Paris, gentiment invitées par la maréchaussée à rentrer chez eux par une brigade de policiers, du coup, plutôt conciliante. Et face à cette répression, la résistance, si j'ose dire, s'organise. Et je voulais vous parler d'une structure qui existe depuis pas mal de temps, mais qui est d'autant plus intéressante à connaître actuellement chez nous, chez les Belges, c'est policewatch.be. C'est un observatoire donc des violences policières en Belgique, coordonné par la Ligue des droits humains. Ils mettent en œuvre 3 missions. Informer sur nos droits, sur les réflexes à avoir en cas de contrôle jugé abusif ou violent, les arguments pour se défendre, analyser les données recensées sur ces violences policières pour comprendre et mieux lutter contre ce phénomène, et enfin, agir par des actions judiciaires et par de la formation des citoyens à leurs droits face à des policiers. En tout cas, je trouvais ça important d'en parler. Je pense qu'il y a également des choses sur lesquelles peut-être mon collègue Lucas voulait peut-être ajouter, ou peut-être à la suite, on va également laisser la parole. C'est la fin de notre première partie. On va peut-être laisser la parole également à nos invités qu'on entendra avant tout en deuxième partie. Mais s'il y avait déjà des choses sur lesquelles vous voulez revenir. Lucas, je te laisse la parole si tu voulais rajouter quelques compléments par rapport à ce que j'ai présenté.
Eh bien, non, pas spécialement, parce que tu as très bien présenté Police Watch. Et heureusement que tu le fais, parce qu'on va dire sinon que je suis un infiltré de la Ligue des droits humains, parce que je suis administrateur de la Ligue, en fait. Et voilà. Magnifique. Et donc, c'est très bien que tu en parles. Et il y a effectivement cette plateforme, et puis il y a aussi toute une série d'associations qui font une veille. Il y a le MRAX en Belgique, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, qui recense aussi toute une série d'agressions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, et notamment, ça leur arrive de traiter ce genre de faits aussi, parce que j'ai pas envie d'utiliser le vocabulaire journalistique classique de l'intervention musclée ou de la bavure policière, parce que je trouve que c'est déjà, je trouve, assez violent en termes de vocabulaire, et puis toute une série d'associations au-delà de ça qui font un superbe travail, pour contrebalancer ce que je viens de dire immédiatement, en fait, l'affaire avec le jeune Adil qui est décédé à Anderlecht des suites d'une courte poursuite avec la police, en fait, tous les éléments qu'on a eus après et qui finalement ont permis d'aller à l'encontre des versions de la police, en fait, ont été faites par un journaliste flamand qui est descendu sur place, qui a enquêté un peu à l'ancienne, hein, qui a remarqué que les témoignages et les traces de freinage absentes sur l'endroit où il y a eu le crash, qui n'est finalement pas un accident d'après sa version, permettait de conclure que la première version, c'est-à-dire la version d'en fait que simplement le jeune aurait foncé sur la camionnette et pas l'inverse, ce ne serait pas tenable par rapport aux évidences. Et donc c'est son article qui a d'abord été publié dans un journal néerlandais, je ne sais plus si c'est Last News ou De Morgen, vous m'excuserez si je me trompe de journal, et qui a après été relayé par les journaux francophones. Donc il y a des journalistes qui font quand même bien leur travail aussi.
Alors, on a pas mal parlé, Lucas et moi. Peut-être que Juliette et Jean-Philippe, vous avez d'autres choses à rajouter sur ce qu'on a déjà pu développer ici.
Ben, on va peut-être, oui, dans une deuxième partie, vous parlez plus de l'application Stop Covid ou du contexte français, mais simplement en France également, il y a des associations, enfin la société civile se mobilise actuellement sur les mêmes thématiques, comme tu as pu le rappeler très justement Alexandre. Et c'est vrai qu'il y a aussi nous un observatoire des violences policières qui est mené par une branche de la Ligue des droits de l'homme. On peut penser aussi à. Vas-y, je te laisse. Techno. Vas-y.
En France, il y a une association qui s'appelle La Quadrature du Net, qui s'est créée à la base contre la censure sur Internet, qui aujourd'hui travaille sur ces questions de surveillance, qui a lancé avec la Ligue des droits de l'homme française une campagne qui s'appelle Technopolis, qui justement vise à la fois à dénoncer la logique sous-jacente des villes intelligentes, dénoncer le fait qu'en fait la ville intelligente c'est aussi avant tout un instrument de surveillance de masse, et qui vise aussi à repérer et dénoncer les abus des smart cities, notamment à Nice.
Exactement. Et puis l'Observatoire est aussi très mobilisé, enfin la Ligue des droits de l'homme, très mobilisée sur toutes les techniques de vidéosurveillance qui sont aujourd'hui utilisées ou soupçonnées d'être utilisées lors des manifestations, gilets jaunes, etc. Voilà, bon, on pourra revenir là-dessus après si vous voulez.
Merci beaucoup déjà pour cette, on va dire, cette introduction, bon, déjà pour ces compléments. Et effectivement, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc tous après pour la deuxième partie de l'erreur est urbaine. On continue de parler justement donc d'autoritarisme face au coronavirus avec Juliette et Jean-Philippe, donc de la Maison des lanceurs d'alerte, et avec Lucas d'Urbagora pour notre patte locale. On se retrouve juste après une première musique en lien avec le thème, je me permets. Je me suis lancé, j'ai mis NTM, Police, sorti en 1995, sur l'album Paris sous les bombes. Petite introduction, donc cette chanson a été fort connue et a fort polémiquée suite à un concert à la Seyne-sur-Mer organisé par SOS Racisme en 95 pour le 14 juillet, Cocorico, pour protester contre l'élection d'un maire du parti du Front National à Toulon. Suprême Thème interprète donc ce titre, Police, et Joe Oster insulte et crie sa haine de la justice et de la police. Patatras. Cela leur vaudra donc en 1996, en première instance au tribunal correctionnel de Toulon, une condamnation à 3 mois de prison ferme. Voilà. En tout cas, ils en reparlent dans une autre chanson, 3 ans plus tard, dans l'album Suprême NTM. On est encore là, vous pouvez l'écouter, c'est un peu la suite de Police. En tout cas, pour le moment, on écoute NTM Police.
Je m'appelle sans les barrages, ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Partant à tenter la guerre. tiroir dans un placard, ils vont la ranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomate qui business la pedo. Alors on enterre, on oublie, faux témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de Toshi. Malheureusement, j'entends dans l'assistance.
C'est moi, j'ai compris.
Ils ont sorti la police, la justice, tous des fils corrompus dans l'abus. Ils puent, je préfère faire confiance au moins de ma vie. Pas de temps à perdre en parole inutile. Voilà le deal, éduquant les portes de leur port, un peu moins de désordre.
Urbaine sur 48FM, l'erreur est urbaine, l'émission qui vous parle d'urbanisme, d'architecture, de la ville, que ce soit à Liège ou un peu partout dans le monde. Une émission spéciale, donc on est toujours en confinement, donc on est passé en hebdomadaire, donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre chaque semaine, chaque samedi de 10h à à peu près 11h30 sur 48FM. On parle dans cette émission, cette fois-ci, d'autoritarisme à l'heure du confinement. Mais quel joyeux thème, n'est-ce pas, vous dites, du côté de votre radio ou sur votre PC. Eh bien, c'est pas sans dire, puisqu'on a la joie d'accueillir avec nous, pour cette émission, pour cette thématique, des experts venus de la Maison des Lanceurs d'Alerte du côté de Paris. Juliette, élève avocate et donc juriste à la Maison des Lanceurs d'Alerte, et Jean-Philippe, juriste à la Maison des Lanceurs d'Alerte également, et qui fait un doctorat notamment sur la protection des lanceurs d'alerte en droit comparé auprès de l'Université de Nanterre. Ça va, je vous ai bien présenté, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'autre, je ne fais que suivre mon texte, mais si vous avez d'autres choses à rajouter déjà.
Non, non, c'est exactement ça.
Ok, parfait. Bonjour à vous deux. Merci d'être là avec nous. Il y a également Lucas, qui est notre expert liégeois, qui fait partie d'Urbagora, qui est avec nous. Donc, au niveau de l'autoritarisme, on avait déjà notamment évoqué, je pense que c'était quelque chose que vous vouliez échanger avec nous, Juliette et Jean-Philippe, c'était tout un débat, en tout cas, qui est en train de s'intensifier en France autour de l'application Stop Covid-19. Et tout ce questionnement qu'il y a entre intelligence artificielle, le développement de l'ensemble de ces technologies et la politique ultra-sécuritaire qui est justifiée dans ce contexte actuel de sécurité sanitaire. Est-ce que vous pouvez déjà un peu développer votre positionnement et le positionnement justement de la Maison des Lanceurs d'Alerte? Qu'est-ce que vous écrivez? Sur quoi vous réfléchissez? Qu'est-ce que vous remettez en cause par rapport à tout ça?
Merci Alexandre. Du coup, non, c'était simplement pour reparler du contexte actuel, puisqu'effectivement, tous les pays sont touchés par l'épidémie de Covid coronavirus, et on voit qu'il y a eu des solutions différentes et en même temps très similaires, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est le tracking des individus, avec l'idée qu'en en suivant les individus et les personnes qu'elles rencontrent, et bah, du coup, on peut lutter efficacement contre la propagation de l'épidémie. Et en fait, c'est vrai qu'en France, ça a suscité un très lourd débat. Le projet d'application, pour l'instant, est à moitié suspendu. La CNIL, qui est la Commission nationale d'informatique et liberté, a émis un avis assez défavorable, enfin, en tout cas assez mitigée sur l'application. Et aujourd'hui, le projet, en tout cas, n'est pas du tout abouti parce que ça a créé une levée de bouclier de pas mal de défenseurs des droits humains qu'on fait valoir des arguments juridiques, mais aussi techniques pour montrer que un, c'était attentatoire au respect de la vie privée, mais aussi totalement inefficace. Peut-être que Jean-Philippe, tu veux en parler parce que il a travaillé sur notamment sur le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence et il a fait valoir des applications pour dire que l'application Stop Covid était un projet très complexe sur le point de vue des libertés. Donc vas-y si tu veux.
Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Bon, alors je précise quand même que je n'ai pas travaillé avec Macron sur l'état d'urgence sanitaire. A priori, je suis plutôt contre les états d'urgence. Mais si Macron proposait, tu dirais non, a priori.
Ah non. Mais, oui.
Non, c'était une petite blague. Une petite blague pour la route, ceci étant. Si on m'entend, je suis toujours preneur d'un gros salaire pour un poste de conseiller au ministère. Non, en fait, l'application, comme l'avait très bien dit Juliette, elle a été rapidement abandonnée parce que, en fait, la plupart des experts informatiques soulignaient que l'application n'était pas efficace, que l'application était impossible de la sécuriser réellement. Par contre, on a quand même mis le gouvernement a quand même mis en place un fichier qui permet de tracer les personnes, non pas uniquement, non pas via une application, mais via les personnels de santé. Là, on n'est pas dans la surveillance numérique, mais on est quand même dans le développement. On est quand même dans le développement d'obligations finalement pour les professionnels de santé de tout simplement de divulguer des informations médicales sur les personnes. Ça pose tout un tas de questions. Ça pose tout un tas de questions sur la portée du secret médical. On sait que le secret médical est là pour protéger la vie privée. Aujourd'hui, on a des personnels de soins qui dénoncent le fait qu'ils sont obligés de remplir un fichier sur les personnes. Alors certes, il y a un certain nombre de garanties qui ont été édictées, il y a un certain nombre de personnes, notamment les personnes, les assistants sociaux qui accompagnent les personnes, devaient à la base également remplir ce fichier, c'est-à-dire signaler les personnes qui pouvaient être susceptibles d'être malades. Donc en fait, ce fichier pouvait toucher l'ensemble de la population. Le Conseil constitutionnel a émis quelques réserves et a censuré le fait que les assistants sociaux puissent signaler les personnes malades. Néanmoins, on reste quand même dans un système préoccupant, où en fait potentiellement toute la population peut voir des données de santé très intimes enregistrées dans un fichier. Alors évidemment, comme toujours, le gouvernement souligne qu'il y a des garanties qui permettent de garantir la confidentialité des données. C'est vrai, le souci, c'est que depuis 10-20 ans, depuis le développement de l'état d'urgence, depuis les lois Sarkozy sur l'immigration, on a de plus en plus de fichiers qui sont créés, où à chaque fois, c'est à peu près le même schéma. On crée un fichier au début, on dit bien sûr, toutes les données qu'on stocke, elles ne seront pas partagées, on ne croisera pas les fichiers. Le problème, c'est que l'évolution, c'est plutôt justement à l'interconnexion des fichiers et à la création de grandes bases de données biométriques. Et ça, c'est vraiment le danger à long terme, parce que même la Cour de justice de l'Union européenne, qui est censée protéger le droit à la vie privée et qui a rendu des arrêts très courageux sur les données biométriques, a ouvert la voie à la constitution de vastes bases de données de surveillance biométrique. Donc là, même si l'application Stop Covid a été abandonnée, on a quand même un fichier supplémentaire, encore un fichier qui est créé, qui bien sûr ne servira qu'à suivre l'épidémie dans un premier temps, mais qui en fait ouvre bien la voie, comme ça a été le cas en matière de droit des étrangers, comme c'était le cas dans le cadre de l'état d'urgence, à un fichage toujours plus fort des citoyens. On peut parier que d'ici quelques années, ces données-là, elles seront réutilisées, que surtout on aura préparé les populations. À partir du moment où on prépare les populations à être fichées, que les personnes s'habituent à être fichées pour des raisons de santé, de lutte contre l'urgence sanitaire, de lutte contre le terrorisme, évidemment, c'est plus facile après d'aller plus loin.
Oui, et tout ça, c'est dans un contexte où, en France, par exemple, il y a un grand débat en ce moment pour donner à une plateforme nationale, le Health Data Hub, l'ensemble des données de santé des citoyens, et ça crée de grosses difficultés parce qu'en fait, la plateforme d'hébergement de l'infrastructure technique, elle est aujourd'hui, c'est Microsoft, une entreprise américaine, qui va héberger toutes ces données. Or, il y a une loi américaine, le Cloud Act, qui permet aujourd'hui aux États-Unis de récupérer à n'importe quel moment toutes les données qui sont stockées sur son sol ce qu'on peut rajouter aussi, c'est simplement que cette logique sécuritaire, en France, on voit bien qu'elle est à l'œuvre depuis l'état d'urgence. Et en fait, aujourd'hui, on fait un parallèle avec le coronavirus, c'est-à-dire que si hier l'ennemi, c'était le djihadiste, et d'ailleurs, il y a toujours une vigilance par rapport à ça, la difficulté, c'est que les lois d'exception, elles rentrent dans le droit commun. Et ça, on l'a vu avec l'état d'urgence, on a un régime d'exception avec le droit d'assigner les personnes à résidence, avec le droit de faire de saisir du matériel informatique, etc. Et à partir du moment où, on prolonge ces lois d'exception pendant une durée importante, et surtout, à partir d'un certain moment, en fait, on les fait rentrer dans le droit commun, donc on a modifié la loi sur la sécurité nationale pour donner plus de prérogatives aux autorités telles que les services de renseignement ou encore les services de police. Et en fait, avec le coronavirus, je pense que c'est un peu les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit « c'est pendant l'état d'urgence sanitaire ». Et en fait, demain, les méga-fichiers comme le Health Data Hub, qui aujourd'hui a un projet, il y a un arrêté réglementaire, aujourd'hui, on dit que c'est que les données par rapport à l'épidémie de Covid, mais demain, ce sera les données en général de tout un chacun, de l'assurance maladie, etc., qui seront dans des méga-fichiers, et du coup, c'est très compliqué.
Ouais, Lucas voulait rebondir justement par rapport à ça.
Bah oui, ce que vous dites me fait vraiment penser en fait à ce qui se développe, mais alors de l'autre côté, du côté de la Chine, avec notamment tout ce qui est système de stockage et assurance, évaluation des assurances des personnes avec ce système de notes. Et justement, c'est assez interpellant puisque, je ne sais pas si vous savez, mais à Liège, c'est un sujet dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission et via l'association Urbagora, mais d'abord le gouvernement fédéral belge et puis l'aéroport de Liège ont fait affaire avec la société, les géants de l'e-commerce chinois qui s'appelle Alibaba, et qui est un des grands spécialistes du cloud en Chine et qui est, je pense, un des pionniers de ces groupes d'assurance, justement. Et donc, je me demandais un peu, ça, je ne sais pas si vous êtes, peut-être si vous avez connaissance de l'équivalent de ce dont vous parliez par rapport au restockage des données aux États-Unis, par exemple, s'il y avait l'équivalent, par exemple, pour la Chine, quoi. Si ce serait possible de voir des systèmes plutôt, alors pour le coup, chinois arriver et éventuellement reprendre toute une série de données sur le sol chinois.
Je sais pas, mais par exemple, nous, on a pu. Alors après, il y a eu des articles là-dessus. Je n'ai pas vérifié les sources, mais à un moment, on s'est posé la question. Il y a des entreprises qui arrêtent d'utiliser Zoom. L'application, bon, ça sort un peu du débat, mais l'application qui permet de faire des Skype, etc. Parce qu'en fait, il y a une captation de toutes les données et des échanges que les personnes ont par visioconférence et qui est réutilisée notamment en matière de recherche. Et du coup, oui, effectivement, je pense que, en tout cas, les États aujourd'hui ont bien compris que l'intelligence artificielle et les données étaient un enjeu de puissance et d'hégémonie économique, politique, et puis à l'intérieur pour surveiller son ennemi de l'intérieur qui peut être effectivement son manifestant gilet jaune, son militant des droits de l'homme ou même son militant Front National, etc. Enfin, du coup, c'est très utilisé pour surveiller les personnes et pour... Et je pense que les États l'ont bien compris. Enfin, je ne sais pas si tu veux compléter.
Non, c'était. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et par rapport à la Chine en particulier, on sait aussi on sait aussi qu'Internet est un espace de liberté, enfin relatif, mais il est un espace de liberté potentiel parce que son architecture est décentralisée. Quand même, aujourd'hui, même si les États-Unis sont hégémoniques sous le contrôle d'un certain nombre d'infrastructures d'Internet, le fait que le réseau soit décentralisé, ça veut dire qu'on peut toujours échapper à la surveillance. On peut utiliser Tor, on peut avoir des serveurs à l'étranger, etc., pour échapper à la surveillance d'État. Avec le développement d'une part d'applications comme WhatsApp qui centralisent toutes les données, on remet un peu en cause ça. Donc, on a encore une fois, il y a encore cette logique de centraliser les données des personnes, en l'occurrence aux États-Unis. Mais surtout, le discours du gouvernement chinois, c'est un discours agressif de recentralisation de l'Internet. L'idée du gouvernement chinois, c'est vraiment de dire Internet, c'est un espace anarchique, il faut remettre de l'ordre. Et maintenant, il faut que chaque État ait ses propres serveurs, que Internet soit reterritorialisé. Et ce discours-là des Chinois, qui est évidemment intéressé parce que c'est eux qui vont vendre les serveurs, a priori, il est très dangereux. Parce que si demain les données des citoyens français, si demain les serveurs d'Internet français sont uniquement basés en France, on va se retrouver dans une situation comme en Iran, où le gouvernement peut couper Internet d'un coup, et techniquement, la population ne peut pas recréer un réseau Internet. Donc, je serais assez inquiet de la manière dont la Chine, dans sa politique diplomatique, cherche à promouvoir cette idée d'un Internet contrôlé par les États. Et évidemment, on imagine que c'est la Chine qui vendra ces serveurs-là. Je rappelle qu'aujourd'hui, les serveurs des services de renseignement de la DGSE, ils intègrent du matériel de Microsoft. Si demain, la Chine vend son matériel à des services de renseignement des entreprises françaises, on imagine bien toutes les implications que ça peut avoir.
Lucas, tu voulais rebondir peut-être ?
Oui, c'est assez précis comme explication, merci. Et je vous en parlais en fait parce qu'avec un collègue, on avait été à la présentation en grande pompe à l'aéroport de Liège de l'arrivée des investisseurs d'Alibaba à Liège avec la construction de futurs entrepôts pour KNAO, qui est en fait leur filiale logistique. Mais en arrivant dans cette journée où il y avait... C'était journée champagne, petit toast, avec grande présentation, avec des magnifiques PowerPoint. Les présentations étaient très axées justement sur toutes les solutions numériques et notamment le cloud qu'ils apportaient. Alors évidemment, c'est dans un premier temps dans le domaine logistique, mais leurs arguments sont assez forts puisque le siège d'Alibaba se trouve à Hangzhou, ce qui est qui est pas loin de Shanghai, et qui est le siège d'Alibaba où des solutions de smart city et de surveillance assez avancées sont développées sous une forme de test à grande échelle. Et donc voilà, ça, c'est aussi leur argument de vente premier, quoi. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a vu quand on a été là-bas. Et comme tu le disais, il y a effectivement une grande proximité pour le coup entre cette entreprise en particulier et le gouvernement chinois, puisque le patron d'Alibaba, qui s'appelle Jack Ma, pendant un temps s'est dit très apolitique, mais a intégré, je ne sais pas si c'était le cas avant ou si c'était le cas récemment, je ne sais plus exactement. Donc, on sait plutôt récemment, voilà, je viens de retrouver l'information, qu'on apprenait qu'il était membre du Parti communiste chinois, alors qu'on savait qu'il était déjà assez proche du gouvernement chinois.
Je trouve ça, en tout cas, je trouve que c'est assez vertigineux, toutes les informations que vous nous donnez là, tous les points qui sont développés, on a l'impression d'être vraiment dans une dystopie de science-fiction, alors que ça, on a l'impression que ça se rapproche de plus en plus. Et je trouve que c'est vraiment assez surprenant l'évolution notamment qu'il y a sur le terme de Smart City, qui a pris vraiment en une dizaine d'années, vraiment je trouve une signification complètement différente, alors qu'à la base c'était vraiment quelque chose qui était proche dans l'idée de... Enfin voilà, ça restait une ville connectée, mais au service de sa population. On a vraiment l'impression que là, le débat autour de la Smart City, c'est avant tout de la technologie pour sécuriser et pour contrôler, quoi. En tout cas, le discours et ce qui est interprété derrière, je trouve qu'il a très fortement évolué en seulement une décennie. Merci en tout cas pour tous ces points que vous avez développés, qui sont... pour le coup assez éloquent et assez dur. Mais on va justement partir sur la troisième partie, justement sur les initiatives, en tout cas en France, qui sont notamment mis en avant par dont vont nous parler du coup Juliette et Jean-Philippe dans cette troisième partie, différentes associations, différentes structures qui existent et qui contestent à la fois cet état d'urgence et l'ensemble des lois et des dispositifs qui sont mis par l'État, par les structures étatiques pour contrôler. Donc on va regarder ça, on va écouter ça dans une dernière partie d'émission. On fait forcément une petite pause musicale entre-temps. On aime bien la musique, on aime bien un peu tout ce qui est neuf. On essaie de proposer une musique toute nouvelle. Là, cette fois-ci, c'est les Bordelais d'Odezen, hardcore, sorti le 24 avril 2020 directement sur Facebook, Instagram et YouTube. Alors, c'est chouette. En tout cas, le clip est réalisé avec les moyens du bord. Il est actuel. C'est avec différentes images de gens confinés se filmant chez eux et filment ce qu'ils voient depuis leur fenêtre. Je vous laisse écouter ça. Et si vous êtes chez vous, vous pouvez taper sur YouTube pour voir ce clip sympathique. Odezen Hardcore. À tout de suite.
On était fin.
retour dans l'erreur est urbaine sur 48FM. L'erreur est urbaine, l'émission qui vous parle d'urbanisme, d'architecture, d'aménagement du territoire et forcément de la ville, notamment notre ville, Liège, mais un peu partout aussi à l'international. D'autant plus actuellement avec l'actualité, on est en confinement, c'est pour ça qu'on est passé en rythme hebdomadaire. On se fait un petit peu chier, on est tous un peu au chômage. Donc, on parle d'un peu tous les états en confinement. On a parlé de notamment la santé en confinement. Aujourd'hui, on parlait d'autoritarisme en période de confinement. On avait tout à l'heure avec nous notre cher ami Lucas d'Urbagora qui a dû malheureusement nous quitter, mais vous retrouverez l'ensemble de l'émission, ne vous inquiétez pas. Mais toujours avec nous, on a nos deux amis parisiens, de la maison des lanceurs d'alerte, Juliette et Jean-Philippe qui sont toujours là avec nous. Rebonjour.
Rebonjour.
Et donc, on a parlé avec vous notamment tout ce qui se passe en France par rapport à l'état d'urgence sanitaire qui est mis en place et des technologies et un ensemble de processus qui sont mis en place pour petit à petit surveiller la population. Et aussi, on a parlé justement, en plus de cette surveillance, d'une certaine autorité, d'une certaine violence qu'il pouvait avoir policière ou de différentes institutions de gestion et d'administration. Le tableau était assez sombre à la fin de la deuxième partie, je vous avoue. On a peut-être perdu quelques... On est diffusé le samedi matin... Donc c'était un peu dur pour le réveil, mais ne vous inquiétez pas, il y avait la troisième partie justement pour parler des résistants, de ceux qui combattent justement ce système, l'ensemble des problèmes qui sont posés par cette surveillance qui limite s'institutionnalise. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul pour résister. Il y a notamment nos amis de la maison des lanceurs d'alerte. Et l'idée, c'était de montrer justement, on n'est pas seul. Il y a plein de structures qui existent. Vous nous avez notamment parlé, alors je reviens sur mes notes, donc de la quadrature du net.
Si, c'est ça. Mais c'est tout. On a parlé de ça et de Technopolis.
Et de Technopolis, c'est ça. Et il y en a plein d'autres. Et vous allez nous parler, à la fois ce que vous faites, vous, dans votre travail, avec qui vous bossez justement pour aller face à ce problème d'autoritarisme d'État. Et également, peut-être voir qu'est-ce qu'il existe comme moyen de résister à notre échelle et quels sont peut-être les exemples qui existent à l'international qui sont inspirants justement dans cet état actuel des choses si particulier.
Effectivement, je pense que comme tu le dis très bien, la société civile s'organise. Alors, les chiens de garde de la démocratie, il y a les journalistes, il y a les ONG qui existent et qui travaillent sur ces thématiques-là, la Ligue des droits de l'homme, la Quadrature du Net. Et c'est vrai que il y a aussi des politiques qui s'organisent pour essayer de limiter les atteintes aux libertés fondamentales de tout un chacun. Et c'est vrai que nous, on travaille plus particulièrement sur la thématique des lanceurs d'alerte à travers l'association La Maison des Lanceurs d'Alerte. Et effectivement, dans des systèmes où il est de plus en plus compliqué de comprendre comment les choses se passent parce que tout passe transite par des structures et des superstructures numériques assez omnipotentes qui concentrent des données. Il nous semble que l'émergence de la personne qui est le lanceur d'alerte est importante et qu'il faut être vigilant à les protéger parce que c'est des vigies de la démocratie et qui peuvent révéler des choses pour le citoyen parce qu'ils sont en fait au sein des systèmes et du coup les informations qu'ils peuvent transmettre peuvent aider à informer les sociétés et les individus sur le revers de la médaille, ce qu'ils ne voient pas forcément. Donc je pense à des cas importants, même si on a eu des lanceurs d'alerte en France sur les sujets des données qu'on accompagne actuellement avec la Maison des lanceurs d'alerte. On peut penser sinon au niveau international à des cas que vous connaissez, par exemple Lucas Snowden. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu veux parler un petit peu des révélations.
En fait, en 2015, quand Snowden a commencé à révéler les problèmes de surveillance, on avait un peu l'impression ouais, d'être dans une dystopie, d'être vraiment dans un état de surveillance globale. En fait, finalement, Snowden aujourd'hui, c'est presque quelque chose de banal, quoi. C'est-à-dire quand on voit le développement de l'intelligence artificielle, t'as beaucoup parlé du reportage d'Arte qui est terrifiant sur les potentialités de l'usage de l'intelligence artificielle pour surveiller les personnes. Snowden aujourd'hui, voilà, il est un peu has-been, c'est-à-dire que ce qu'a dénoncé Snowden, je le rappelle, c'était des surveillances de télécommunications, c'était des surveillances de métadonnées. Donc en fait, la surveillance par la NSA de qui écrit à qui et à quel moment. Donc en fait, on pourrait être très pessimiste, mais finalement, en fait, surtout ce que démontre l'affaire Snowden, c'est que en fait, il y aura toujours des personnes pour s'opposer, quoi. Moi, je suis assez contre le discours hyper négatif sur la technologie. Alors certes, évidemment, on a beaucoup de raisons d'être très inquiets. L'intelligence artificielle, entre autres, ça peut être très dangereux pour les libertés, mais on peut aussi rappeler que, d'une part, il y aura toujours des personnes pour s'opposer aux abus. Le lanceur d'alerte, il existe depuis très longtemps. Il y a des personnes qui disent que Martin Luther, c'était un lanceur d'alerte. Il y a des personnes qui disent que dans l'Antiquité, celui qu'on appelait le parésiaste, celui qui venait dire la vérité dans l'espace public, c'était un lanceur d'alerte. Dans les années 70, on a eu Daniel Ellsberg qui a dénoncé la guerre au Vietnam en sortant les documents secrets. On a eu Snowden, mais aussi après Snowden, on a eu plein de gens qui se sont dit c'est super ce qu'a fait Edward Snowden. Donc moi aussi, je pense que ma conscience, elle va au-dessus des lois, et donc je vais dénoncer au public un certain nombre de choses. C'est ce qu'a fait, c'est ce qui a été fait notamment dans l'affaire Cambridge Analytica récemment. Dans 4-5 ans, peut-être qu'on aura un lanceur d'air sur l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que, en fait, de tout temps, l'humain a toujours résisté au pouvoir quand le pouvoir allait trop loin. Et aussi, surtout, en fait, l'un des apports de l'affaire Snowden, c'est que Snowden, en fait, c'est aussi un enfant de la technologie. Si Snowden a pu révéler autant de choses, c'est aussi et surtout parce que, justement, il y a eu le développement du réseau Internet, il y a eu le développement d'un certain nombre de techniques de cryptage qui lui ont permis de récupérer ces fichiers-là et de tout balancer, de tout balancer à des journalistes. On dénonce beaucoup les smart cities, on dénonce beaucoup l'intelligence artificielle, mais on peut aussi envisager que l'intelligence artificielle, ce soit un outil de résistance. Moi, je rêve vraiment d'une grande manifestation nationale des Gilets jaunes avec un service d'intelligence artificielle qui permet de savoir à quel moment il faut contacter une personne pour qu'elle soit susceptible de se lever le matin et aller manifester à Paris. Donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Dès la création d'Internet, on a eu un mouvement pour le logiciel libre où on a dit nous, on est complètement contre ce que font les grandes firmes américaines. Nous, on veut un logiciel au service des gens. Donc, il y a eu aujourd'hui, toute personne a accès à Wikipédia. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est une encyclopédie qui est accessible à tous. Tout le monde aujourd'hui peut installer Signal sur son portable, c'est un moyen de communiquer très sécurisé. Demain, on peut tout à fait imaginer que des ingénieurs, de militants, des syndicaux, ou tout simplement des simples citoyens récupèrent cette technologie pour la mettre au service des mouvements sociaux, au service des lanceurs d'alerte, etc.
Oui, et puis c'est déjà ce qui se fait. Il y a pas mal les white out, comme on les appelle, qui sont des personnes qui vont hacker pour le bien commun, entre guillemets, qui déroutent des systèmes de surveillance ou des systèmes nocifs, en tout cas. Donc, évidemment, c'est un outil au service des démocraties. Et après, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ça, Alexandre, mais oui, je pense que la Smart City, il y a cet aspect sécuritaire qui est inquiétant, mais il y a aussi pas mal de... je pense qu'on ne peut pas dresser un portrait que négatif des Smart City. Il y a aussi pas mal de... en termes d'accessibilité, par exemple, à des personnes handicapées. Je pense que la Smart City a aussi des apports qui sont intéressants et qui sont utiles, peut-être même pour les... Enfin, des fois même pour des personnes plus vulnérables. Donc, voilà.
En tout cas, l'idée, ce n'est pas de se mettre contre ces nouvelles technologies, c'est justement de jouer avec, de travailler avec pour justement être face à ceux qui les utilisent actuellement dans pas forcément la meilleure manière, mais nous aussi on peut les utiliser d'une manière plus qui nous paraît en tout cas plus juste. Et je reviens, on a évoqué, mais vraiment presque de manière très vague. On évoquait les gilets jaunes. Et est-ce que... Donc, il y a aussi des gilets jaunes en Belgique, du moins du côté wallon. Et est-ce que... On entend des soubresauts, j'ai lu quelques articles, mais vraiment très vagues sur ce... En tout cas, la perception qu'a l'État, cette peur presque qu'elle a de voir revenir, en plus avec des blouses blanches qui ont l'air d'être aussi fort remontées, de voir revenir à la fin du déconfinement, si à un moment donné il y a une fin du déconfinement, mais peut-être pendant ce déconfinement, des nouvelles manifestations revenir, des nouvelles contestations venir. Et est-ce que justement l'État se... s'arme entre guillemets pour parce que elle craint très fort c'est on va dire presque un retour de flamme quoi à la suite on peut dire qu'effectivement il y a une sensation que ce soit en France ou en Belgique que les décisions ont été prises très très tardivement et que il y a beaucoup de laissés pour compte pendant ce confinement. Donc est-ce que il y a justement l'idée de s'armer d'intelligence artificielle et de surveiller au maximum la population pour éviter tout mouvement qui a l'air d'être de plus en plus prégnant pour les gouvernants.
En tout cas, un certain nombre de journalistes un peu téléguidés par les services de renseignement publient depuis le début du confinement des articles sur la menace de l'ultra-gauche qui serait en train de préparer des actions très graves. C'est pas nouveau, mais là ça commence à se réintensifier. Enfin, en fait, on a eu l'affaire Tarnac en 2005, je crois, où l'antiterrorisme a brillamment cherché à qualifier de terrorisme des actions de contestation civile. Manque de bol, ça a pas du tout marché. Enfin, ça a été un fiasco judiciaire de A à Z. Ils ont tous été traumatisés. Mais je crois qu'en fait, on a quand même en France, il y a un aspect sociologique, c'est qu'on a quand même des services de renseignement qui font bien leur boulot par ailleurs, mais qui sont aussi quand même composés de aussi beaucoup de personnes plutôt catholiques avec une culture militaire qui sont convaincus que l'ultra-gauche est prête à... Enfin, que tous les gilets jaunes ont potentiellement une bombe chez eux ou se préparent à aller détruire le système de... Voilà. Je suis un peu pessimiste, mais je pense qu'en fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a tout un tas de mouvements sociaux qui sont de plus en plus surveillés. On parlait du risque sanitaire, du risque terroriste. On voit arriver un peu gros comme une maison les arrestations des personnes... la mouvance d'ultra-gauche, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a même entendu parler d'ultra-jaune, bientôt on parlera d'ultra-vert ou de terroriste, je ne sais pas, de terroriste babacou, de terroriste vegan, enfin on ne sait pas trop, mais en fait c'est surtout la question, surtout comment l'opinion publique réagit à ça, quoi. C'est-à-dire ça rejoint la question d'Internet, c'est-à-dire que Internet, c'est super parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus avoir de propagande d'État, même enfin, les journaux comme Le Point qui publient des âneries sur ces questions-là. En fait, plus personne ne lit Le Point, hein, à part deux, trois cadres dynamiques, je ne suis même pas sûr qu'ils le lisent. Mais du coup, à la fois aussi, on peut craindre aussi que les réseaux sociaux soient utilisés aussi par l'extrême droite pour créer l'idée de menaces de l'ultra-gauche, de menaces... des immigrés, en fait, un des gros soucis avec le confinement, c'est aussi qu'on a fermé toutes les frontières. Comment est-ce qu'on va sortir de ça? Comment est-ce qu'on va sortir de l'idée que l'étranger est dangereux? Avant, on avait l'étranger dangereux parce qu'il était fraudeur. On a eu l'étranger terroriste. Maintenant, l'étranger terroriste est malade. Donc, je ne sais pas comment on va sortir de ça. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est l'impact du confinement sur la perception que peuvent avoir les personnes des mouvements sociaux, des étrangers, etc. À la fois le confinement, ça, on a vu beaucoup d'initiatives très solidaires, peut-être que les personnes vont être habituées à être plus solidaires et à être plus sensibles aux mouvements sociaux. On peut aussi avoir un retour de flamme, des idées populistes, etc. Et ça, c'est difficile à dire, parce que quand les Gilets jaunes ont commencé, on s'est dit que ça allait être... ça allait être un mouvement très populiste, que c'est le retour de l'extrême droite. Finalement, en fait, un mois plus tard, il proposait d'améliorer le droit d'asile et il parlait de justice fiscale. Mais voilà, on peut très bien imaginer que les nouveaux mouvements sociaux, ça soit des mouvements très populistes. Enfin, on peut imaginer que ce soit des mouvements très populistes, voire d'extrême droite. Ou alors, on peut aussi imaginer une résurgence de la vraie gauche, de vrais mouvements sociaux. Mais c'est difficile de savoir. Enfin, on ne sait pas trop, quoi.
En tout cas, affaire à suivre. On verra par la suite. Mais merci pour tous ces éclairages et pour tout ce que vous avez témoigné. Si je retiens une chose, du moins sur l'ensemble, c'est que oui, on est surveillé, mais non, on n'est pas tout seul et qu'il y a encore des gens qui s'activent pour justement à la fois utiliser ces nouvelles technologies pour. Alors, j'ai des grands mots pour faire le bien, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas pour défendre nos droits, pour plus de justice, que ce soit sociale et pour l'ensemble de la population et des étrangers qui sont présents, que ce soit en Belgique ou en France. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot avant qu'on clôt l'émission.
Non, on était ravis. Et si vous avez des alertes et que vous voulez de l'aide, vous pouvez solliciter la maison des lanceurs d'alerte.
Ça marche, on n'hésitera pas à faire appel à la maison des lanceurs d'alerte. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été présents. Merci de nous avoir accordé ce petit moment. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai déjà oublié la thématique, mais on sera quand même là la semaine prochaine. En attendant, on se quitte en musique. On se quitte toujours avec une petite musique locale. Cette fois-ci, c'est nos amis de Starflame, les bons vieux liégeois de Starflame, et on écoute Ce plat pays. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Certaine fierté, mais à quel prix? L'histoire plus tard nous l'a pris. Contrat juteux sur fond de financement de parti. Le bruit des balles, des hélicoptères à Gusta. Ouvre le bruit des balles, des tirs meurtriers qu'on ajusta. Refroidi pour un dossier brûlant ou un quelconque règlement. Mais le saura-t-on vraiment pendant ce temps? Une délégation belge Proche-Orient parle de cohabitation. Se vante d'être un exemple vivant, parlons-en. Du climat nord-sud qui menace. Une démocratie déjà fragilisée par une classe politique. Au centre de trop nombreuses polémiques et ses critiques. De l'opinion publique qui veut du changement. Que des tétons pour vice d'ingérence. Réclame dans la manière des coupes en aide de la transparence. Mais sous l'apparence de fast-food d'investigation, chacun se renvoie là-bas des temps de sauver sa situation. Après ça, on s'étonne que la jeunesse ne se reconnaisse pas dans l'État qui l'autorise à marcher pour la ganja. Mais déploie avec stupeur les stupos à bord des manifs. Colle au violon pour une nuit les fumeurs de spleen. Administratif jusqu'au bouddhisme à son paroxysme. Bon baiser du plat pays qui est le mien, mon patriotisme. Pas de l'aile, putain la démocratie. À peine deux siècles d'existence, et quel gâchis.
Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise. Agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise. Agonise, agonise.
Pavis se retourne. Un doigt sur la gâchette.
Comme le refrain.
ferai une chanson de Brel pour te parler du bordel. Royaume de Belgique, pays de pauvres, tu pars en couille comme un plat de nouilles. Jugé à la sauvette par une justice qui s'embrouille. Pendant que la pute mou de septembre à août, la grisaille jamais ne s'arrête. Même le climat est dans le coup, dans ce plat pays qui n'est pas vraiment le mien. Il faut un temps à dormir debout, un temps de chien. Le gardenet crache son venin, signe un featuring pour le prince évêque. Comme une alarme dans ta tête, so check les signes d'une défaite annoncée. À vouloir maintenir l'unité d'un pays, grâce aux valeurs du passé, dépassé, usurpé. Le roi, la loi, la liberté. Même à contrer n'est qu'une chienne, qu'une pute sur l'échiquier du monde. Tant les nations se disputent le trophée de l'immonde. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise, agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise, agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise.
D'un trop plein de haine et de convoitise, ouais. D'un trop plein de haine et de convoitise.